Alphonse Daudet, Le Petit Chose, deuxième partie, chapitre 15. Lecteur, si tu as un esprit fort, si les rêves te font sourire, si tu n'as jamais eu le cœur mordu, mordu jusqu'à crier par le pressentiment des choses futures, si tu es un homme positif, une de ces têtes de fer que la réalité seule impressionne, et qui ne laissent pas traîner un grain de superstition dans leur cerveau, si tu ne veux en aucun cas croire au surnaturel, admettre l'inexplicable, n'achève pas de lire ses mémoires. Ce qui me reste à dire en ces derniers chapitres est vrai comme la vérité éternelle. Mais tu ne la croiras pas. C'était le 4 décembre. Je revenais de l'institution Mouly encore plus vite que d'ordinaire. Le matin, j'avais laissé Jacques à la maison, se plaignant d'une grande fatigue, et je languissais d'avoir de ses nouvelles. En traversant le jardin, je me jetai dans les jambes de M. Pillois, debout près du figuier, et causant à voix basse avec un gros personnage court et patu, qui paraissait avoir beaucoup de peine à boutonner ses gants. Je voulais m'excuser et passer outre, mais l'hôtelier me retint. « Un mot, Monsieur Daniel !» Puis, se tournant vers l'autre, il ajouta « C'est le jeune homme en question. Je crois que vous feriez bien de le prévenir. » Je m'arrêtai, fort intrigué. De quoi ce gros bonhomme voulait-il me prévenir? Que ses gants étaient beaucoup trop étroits pour ses pattes? Je le voyais bien, parbleu. Il y eut un moment de silence et de gêne. M. Pillois, le nez en l'air, regardait dans son figuier comme pour y chercher les figues qui n'y étaient pas. L'homme aux gants tirait toujours sur ses boutonnières. À la fin, pourtant, il se décida à parler. Mais sans lâcher son bouton, n'ayez pas peur. « Monsieur, me dit-il, je suis depuis 20 ans médecin de l'hôtel Pillois. Et j'ose affirmer... » Je ne le laissai pas achever sa phrase. Ce mot de médecin m'avait tout appris. « Vous venez pour mon frère ? » lui demandai-je en tremblant. « Il est bien malade, n'est-ce pas ?» Je ne crois pas que ce médecin fût un méchant homme. Mais, à ce moment-là, c'était ses gants surtout qui le préoccupaient. Et sans songer qu'il parlait à l'enfant de Jacques, sans essayer d'amortir le coup, il me répondit brutalement. « S'il est malade, je crois bien, il ne passera pas la nuit. » Ce fut bien asséné, je vous en réponds. La maison, le jardin, M. Pillois, le médecin, je vis tout tourner. Je fus obligé de m'appuyer contre le figuier. Il avait le poignet rude, le docteur de l'hôtel Pillois. Du reste, il ne s'aperçut de rien et continua avec le plus grand calme, sans cesser de boutonner ses gants. « C'est un cas foudroyant de phtisie galopante. Il n'y a rien à faire, du moins rien de sérieux. D'ailleurs, on m'a prévenu beaucoup trop tard, comme toujours. « Ce n'est pas ma faute, docteur, fit le bon monsieur Pillois, qui persistait à chercher des figues avec la plus grande attention, un moyen comme un autre de cacher ses larmes. « Ce n'est pas ma faute. Je savais depuis longtemps qu'il était malade, ce pauvre monsieur Essette, et je lui ai souvent conseillé de faire venir quelqu'un, mais il ne voulait jamais. Bien sûr qu'il avait peur d'effrayer son frère. C'était si uni, voyez-vous, ces enfants-là. » Un sanglot désespéré me jaillit du fond des entrailles. « Allons, mon garçon, du courage !» me dit l'homme aux gants d'un air de bonté. « Qui sait, la science a prononcé son dernier mot, mais la nature pas encore. Je reviendrai demain matin. » Là-dessus, il fit une pirouette et s'éloigna avec un soupir de satisfaction.
Il venait d'en boutonner un.
Je restai encore un moment dehors pour essuyer mes yeux et me calmer un peu. Puis, faisant appel à tout mon courage, j'entrai dans notre chambre d'un air délibéré. Ce que je vis, en ouvrant la porte, me terrifia. Jacques, pour me laisser le lit sans doute, s'était fait mettre un matelas sur le canapé. Et c'est là que je le trouvai, pâle, horriblement pâle, tout à fait semblable au Jacques de mon rêve. Ma première idée fut de me jeter sur lui, de le prendre dans mes bras et de le porter sur mon lit, n'importe où, mais de l'enlever de là, mon Dieu, de l'enlever de là. Puis tout de suite, je fis cette réflexion. Tu ne pourras pas, il est trop grand. Et alors, ayant vu ma mère Jacques étendue sans rémission à cette place où le rêve avait dit qu'il devait mourir, mon courage m'abandonna. Ce masque de gaieté contrainte, qu'on se colle au visage pour rassurer les moribonds, ne put pas tenir sur mes joues. Et je vins tomber à genoux près du canapé, en versant un torrent de larmes. Jacques se tourna vers moi péniblement. « C'est toi, Daniel. Tu as rencontré le médecin, n'est-ce pas ? Je lui avais pourtant bien recommandé de ne pas t'effrayer à ce gros-là. Mais je vois à ton air qu'il n'en a rien fait et que tu sais tout. Donne-moi ta main, frérot. Qui diable se serait douté d'une chose pareille ? Il y a des gens qui vont à Nice pour guérir leur maladie de poitrine. Moi, je suis allé en chercher une. C'est tout à fait original. Ah, tu sais, si tu te désoles, tu vas m'enlever tout mon courage. Je ne suis déjà pas si vaillant. Ce matin, après ton départ, j'ai compris que cela se gâtait. J'ai envoyé chercher le curé de Saint-Pierre. Il est venu me voir et reviendra tout à l'heure m'apporter les sacrements. Cela fera plaisir à notre mère, tu comprends. C'est un bon homme, ce curé. Il s'appelle comme ton ami du collège de Sarlande. » Il n'en put pas dire plus long et se renversa sur l'oreiller en fermant les yeux. Je crus qu'il allait mourir et je me mis à crier bien fort « Jacques, Jacques, mon ami !» De la main, sans parler, il me fit « Chut, chut !» à plusieurs reprises. À ce moment, la porte s'ouvrit. Monsieur Pillois entra dans la chambre, suivi d'un gros homme qui roula comme une boule vers le canapé, en criant « Qu'est-ce que j'apprends, monsieur Jacques ? C'est bien le cas de le dire !»« Bonjour, Pierrotte, » dit Jacques en ouvrant les yeux. « Bonjour, mon vieil ami. J'étais bien sûr que vous viendriez au premier signe. » Laisse le mettre là, Daniel. Nous avons à causer tous les deux. » Pierrotte pencha sa grosse tête jusqu'aux lèvres pâles du moribond, et ils restèrent ainsi un long moment à s'entretenir à voix basse. Moi, je regardais immobile au milieu de la chambre. J'avais encore mes livres sous le bras. Monsieur Pillois me les enleva doucement, en me disant quelque chose que je n'entendis pas. Puis il alla allumer les bougies et mettre sur la table une grande serviette blanche. En moi-même, je me disais, « Pourquoi met-il le couvert ? Est-ce que nous allons dîner ? Mais je n'ai pas faim !» La nuit tombait. Dehors, dans le jardin, des personnes de l'hôtel se faisaient des signes en regardant nos fenêtres. Jacques et Pierrotte causaient toujours. De temps en temps, j'entendais le Cévenol dire avec sa grosse voix pleine de larmes « Oui, monsieur Jacques, oui, monsieur Jacques. » Mais je n'osais pas m'approcher. À la fin, pourtant, Jacques m'appela et me fit mettre à son chevet, à côté de Pierrotte. « Daniel, mon chéri, me dit-il, après une longue pause, je suis bien triste d'être obligé de te quitter. Mais une chose me console, je ne te laisse pas seul dans la vie. Il te restera Pierrotte, le bon Pierrotte qui te pardonne et s'engage à me remplacer près de toi. » Oui, oui, monsieur Jacques, je m'engage, c'est bien le cas de le dire, je m'engage. Vois-tu, mon pauvre petit, continua la mère Jacques. Jamais, à toi seul, tu ne parviendrais à reconstruire le foyer. Ce n'est pas pour te faire de la peine, mais tu es un mauvais reconstructeur de foyer. Seulement, je crois qu'aidé de Pierrotte, tu parviendras à réaliser notre rêve. Je ne te demande pas d'essayer de devenir un homme. Je pense comme l'abbé Germaine, que tu seras un enfant toute ta vie. Mais je te supplie d'être toujours un bon enfant, un brave enfant, et surtout, approche un peu, que je te dise ça dans l'oreille, et surtout, ne pas faire pleurer les yeux noirs. Ici, mon pauvre bien-aimé se reposa encore un moment, puis il reprit. Quand tout sera fini, tu écriras à papa et à maman. Seulement, il faudra leur apprendre la chose par morceaux.
En une seule fois.
Cela leur ferait trop de mal. Comprends-tu maintenant pourquoi je n'ai pas fait venir Madame Essette? Je ne voulais pas qu'elle fût là. Ce sont de trop mauvais moments pour les mères. Il s'interrompit et regarda du côté de la porte. Voilà le bon Dieu, dit-il en souriant, et il nous fit signe de nous écarter.
C'était le viatique qu'on a porté. Sur la nappe blanche, au milieu des cierges, l'hostie et les saintes huiles prirent place. Après quoi, le prêtre s'approcha du lit et la cérémonie commença.
Quand ce fut fini, oh, que le temps me sembla long. Quand ce fut fini, Jacques m'appela doucement près de lui. « Embrasse-moi, me dit-il. » Et sa voix était si faible qu'il avait l'air de me parler de loin. Il devait être loin, en effet, depuis tantôt 12 heures que l'horrible phtisie galopante l'avait jeté sur son dos maigre et l'emportait vers la mort au triple galop. Alors, en m'approchant pour l'embrasser, ma main rencontra sa main, sa chère main toute moite des sueurs de l'agonie. Je m'en emparai et je ne la quittai plus. Nous restâmes ici je ne sais combien de temps, peut-être une heure, peut-être une éternité, je ne sais pas du tout. Il ne me voyait plus, il ne me parlait plus. Seulement, à plusieurs reprises, sa main remua dans la mienne, comme pour me dire « Je sens que tu es là ». Soudain, un long soubresaut agita son pauvre corps des pieds à la tête. Je vis ses yeux s'ouvrir et regarder autour d'eux pour chercher quelqu'un. Et comme je me penchais sur lui, je l'entendis dire 2 fois, très doucement, « Jacques, tu es un âne. Jacques, tu es un âne. » Puis rien, il était mort.
Oh, le rêve!
Il fit un grand vent cette nuit-là. Décembre envoyait des poignées de grésil contre les vitres. Sur la table au bout de la chambre, un Christ d'argent flambait entre 2 bougies. À genoux devant le Christ, un prêtre que je ne connaissais pas parlait d'une voix forte dans le bruit du vent. Moi, je ne priais pas, je ne pleurais pas non plus. Je n'avais qu'une idée, fixe. C'était de réchauffer la main de mon bien-aimé que je tenais étroitement serrée dans les miennes. Hélas, plus le matin approchait, plus cette main devenait lourde et de glace. Tout à coup, le prêtre qui récitait du latin là-bas, devant le Christ, se leva et vint me frapper sur l'épaule. « Essaie de prier, me dit-il, cela te fera du bien. » Alors seulement je le reconnus. C'était mon vieil ami du collège de Sarlande. L'abbé Germain lui-même avec sa belle figure mouillée et son air de dragon en soutane. La souffrance m'avait tellement anéanti que je ne fus pas étonné de le voir. Cela me parut tout simple. Mais voici comment il était là. Le jour où le petit chose quittait le collège, l'abbé Germain lui avait dit « J'ai bien un frère à Paris, un brave homme de prêtre. » Mais baste, à quoi bon te donner son adresse? Je suis sûre que tu n'irais pas. Voyez un peu la destinée. Ce frère de l'abbé était curé de l'église Saint-Pierre à Montmartre. Et c'est lui que la pauvre mère Jacques avait appelé à son lit de mort. Juste à ce moment, il se trouvait que l'abbé Germain était de passage à Paris et logeait au presbytère. Le soir du 4 décembre, son frère lui dit en entrant « Je viens de porter l'extrême onction à un malheureux enfant qui meurt tout près d'ici. Il faudra prier pour lui, l'abbé. » L'abbé répondit « J'y penserai demain en disant ma messe. Comment s'appelle-t-il ? Attends, c'est un nom du midi, assez difficile à retenir. Jacques et Sept. Oui, c'est cela, Jacques et Sept. » Ce nom rappela à l'abbé certains petits pions de sa connaissance et sans perdre une minute, il courut à l'hôtel Pillois. En rentrant, il m'aperçut debout, cramponné à la main de Jacques. Il ne voulut pas déranger ma douleur et renvoya tout le monde en disant qu'il veillerait avec moi. Puis il s'agenouilla et ce ne fut que fort avant dans la nuit qu'effrayé de mon immobilité, il me frappa sur l'épaule et se fit connaître. À partir de ce moment, je ne sais plus bien ce qui se passa.
La fin de cette nuit terrible, le jour qui la suivit, le lendemain de ce jour et beaucoup d'autres lendemains encore, ne m'ont laissé que de vagues souvenirs confus.
Il y a là un grand trou dans ma mémoire. Pourtant, je me souviens, mais comme de choses arrivées il y a des siècles, d'une longue marche interminable dans la boue de Paris, derrière la voiture noire. Je me vois, allant tête nue, entre Pierrot et l'abbé Germaine. Une pluie froide mêlée de grésil nous fouette le visage. Pierrot a un grand parapluie, mais il tient si mal et la pluie tombe si dru que la soutane de l'abbé ruisselle, toute luisante. Il pleut, il pleut. Oh, comme il pleut. Près de nous, à côté de la voiture, marche un long monsieur tout en noir qui porte une baguette d'ébène. Celui-là, c'est le maître des cérémonies, une sorte de chambellan de la mort. Comme tous les chambellans, il a le manteau de soie, l'épée, la culotte courte et le claque. Est-ce une hallucination de mon cerveau? Je trouve que cet homme ressemble à M. Viau, le surveillant général du collège de Sarlande. Il est long comme lui, tient comme lui sa tête penchée sur l'épaule. Et chaque fois qu'il me regarde, il a ce même sourire faux et glacial qui courait sur les lèvres du terrible porte-clés. Ce n'est pas M. Viau, mais c'est peut-être son ombre. La voiture noire avance toujours, mais si lentement, si lentement. Il me semble que nous n'arriverons jamais.
Enfin, nous voici dans un jardin triste, plein d'une boue jaunâtre où l'on enfonce jusqu'aux chevilles.
Nous nous arrêtons au bord d'un grand trou.
Des hommes en manteau court apportent une grande boîte très lourde qu'il faut descendre là-dedans.
L'opération est difficile. Les cordes toutes raides de pluie ne glissent pas. J'entends un des hommes qui crie « Les pieds en avant! Les pieds en avant !» En face de moi, de l'autre côté du trou, l'ombre de M. Viau, la tête penchée sur l'épaule, continue à me sourire doucement. Longue, mince, étranglée dans ses habits de deuil, elle se détache sur le gris du ciel comme une grande sauterelle noire toute mouillée. Maintenant, je suis seul avec Pierrot. Nous descendons le faubourg Montmartre. Pierrot cherche une voiture, mais n'en trouve pas. Je marche à côté de lui, mon chapeau à la main. Il me semble que je suis toujours derrière le corbillard. Tout le long du faubourg, les gens se retournent pour voir ce gros homme qui pleure en appelant des fiacres. et cet enfant qui va tête nue sous une pluie battante. Nous allons toujours, et je suis là, et ma tête est lourde. Enfin, voici le passage du saumon. L'ancienne maison l'Alouette, avec ses contrevents peints, ruisselant d'eau verte. Sans entrer dans la boutique, nous montons chez Pierrotte. Au premier étage, les forces me manquent. Je m'assieds sur une marche. Impossible d'aller plus loin, ma tête est trop lourde. Alors Pierrotte me prend dans ses bras, et tandis qu'il me monte chez lui aux trois quarts morts et grôle autant de fièvre, j'entends le grésil qui pétille sur la vitrine du passage et l'eau des gouttières qui tombe à grand bruit dans la cour. Il pleut, il pleut. Oh, comme il pleut !